Dès qu'on le voit, il se multiplie. Un être ne va pas se transformer en lui montrant continuellement ses fautes, ses erreurs, ses déviations, ses insuffisances. La critique ne sert de rien. La bonté, la bienveillance, c'est-à-dire de bien voir, est d'une très grande utilité. Et on va aller poser parfois des questions aux gens. Pourquoi me fais-tu ça? Je ne comprends pas. Pourquoi fais-tu cela? Comme Jésus va le dire à celui qui le gifle au prétoire. Tiens, tu peux me dire que pourquoi tu as fait ça? Ça m'étonne, je suis... Explique-moi. Je t'écoute. La langue de Dieu est une langue d'émerveillement. Elle annonce des bonnes nouvelles. Jésus annonce des bonnes nouvelles. Et quand vous lisez dans l'évangile, on dit, mais Jésus, il a eu des invectives. Oui, il a eu des invectives. Mais il y a deux manières de les traduire. On peut traduire « malheur sur vous, malédiction sur vous ». On imagine bien ça. Ou il y a « oh, malheureux êtes-vous de vous faire piéger à croire ces choses-là. Malheureux êtes-vous. Mon Dieu, mais comment allez-vous vous en sortir si vous maudissez l'Esprit Saint, si vous n'accueillez pas la petite voix intérieure, mais vous êtes perdu. Vous pouvez blasphémer contre le Père et le Fils, faites tout ce que vous voulez, mais ne pas écouter cette petite voix intérieure. Mais comment allez-vous vous en sortir? Voilà ce que Jésus dit. Donc, hein, l'Esprit Saint. Donc, et dès qu'il y a, alors, hein, ça aussi, tous les actes des apôtres sont très clairs, sur un peu, on va avoir quelque chose qu'on regardera peut-être demain, si Jésus veut, parce que vraiment, vous savez qu'avec l'Esprit Saint, hein, à un moment donné, justement, à Nicodème, Jésus dit, mais où l'Esprit Saint, hein, il va, il t'emmène là où tu veux, hein, il t'emmène où tu veux, tu voudrais bien aller là-bas, moi j'ai prévu certaines choses, hein, je me suis dit, je le connais maintenant quand même, donc j'ai toutes sortes de choses qui sont là. Je me dis, ça pourrait être ça, ou ça, ou ça. Si je ne le fais pas, il n'y a rien. Si je ne fais pas ce travail-là, qu'est-ce que tu veux? Tu n'as rien fait. On collabore. Tu fais le tien de boulot, je fais le mien. Tu as préparé ta terre. Ouais, c'est un peu ce que va vous dire la graine. Elle va vous dire, la graine, elle dit, moi j'ai des pouvoirs germinatifs extraordinaires. Mais tu n'as rien fait dans ton terrain. Tu l'as même pas gratouillé, t'as pas enlevé les cailloux, t'as pas arrosé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, je vais faire un micro-plante. Je vais faire ce que je peux. Les affaires. Nous sommes là. Donc, et je pensais faire quelque chose que j'appellerais un peu les incontournables de la vie spirituelle. Qu'est-ce que on ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme aujourd'hui vous avez les incontournables de votre vie charnelle. Il faut dormir. On a beau faire ce qu'on veut. Et moi, particulièrement, vous savez, c'est très compliqué pour moi de dormir. Parce qu'il y a tant à faire. Les temps sont tellement courts que je n'ai pas le temps. J'aimerais bien ne pas avoir le temps de dormir. Et il faut bien. Et donc, la discipline intérieure d'incontournable, je me discipline pour que mon sommeil soit comme il faut, réparateur. J'essaye de grignoter au maximum. Mais à un moment, non, hop, on rallonge un coup, parce que ça ne va plus, quoi. Bon, il faut manger aussi. Il y a ceux qui aimeraient être fines, 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 jusqu'à disparaître. Hein? Eh oui, il y en a d'autres qui aimeraient bien regrossir. Hein? Donc, il faut manger. Vous percevez. Mais c'est lors de la vie spirituelle, c'est pareil. À la fois... On a ces paroles merveilleuses de Jésus pour nous déculpabiliser, décomplexer. Il nous dit, la racine, vous inquiétez pas, parce que la plante, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, elle pousse. Hein, bien sûr, donc à la fois, mais ça n'empêche que... Alors on verra, parce que je ne vais pas déjà tout vous dire. après je ne saurais plus quoi dire. L'enseignement des apôtres, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que justement, il y a l'apparition, c'est ça qui est formidable à la Pentecôte, dès qu'ils entrent dans ce lieu de leur enfantement, qui est la Pentecôte, hein, on parle aussi souvent d'un enfantement. Et alors, ce qui est marrant, c'est que pour qu'il y ait un enfantement, il faut qu'il y ait une femme. Et donc, on sait bien que Jésus est venu par Marie, de ce couple de Marie et de Joseph qui sont là. Jésus a appris de Joseph qu'est-ce que c'était qu'un père. Vous savez bien la difficulté fantastique, que vous l'avez entendu, à la suite de notre étude sur le père, combien il est difficile de pouvoir percevoir cette identité d'une bonté paternelle, d'une bonté, quand l'image même du Père est complètement froissée en nous. Hein, c'est dur. Et ça doit se rétablir, il faut le retrouver, faut que ça vient. Hein, donc Jésus est comme il est parce que Joseph est là. Donc, mais il y a cette mère. Et il y a, à la Pentecôte, il y a Marie. Marie est à la Pentecôte aussi. Et on sait, dans les mystiques, la vie intérieure depuis 2000 ans dans l'Église ont permis de percevoir qu'il y avait entre Marie et l'Esprit Saint une étonnante connivence, étonnante, bouleversante, jusqu'à ce qu'un père Kolb, un martyr de la guerre de 1940, dans les camps juifs, cet homme qui, alors que dans, voilà, de cet affreux, de cette inhumaine aventure que les hommes sont capables de faire il y a si peu de temps, et l'on décide, voilà, c'est méchant, décide d'aller, il y a eu telle chose qui s'est passée qui ne nous plaît pas, nous en prenons, alignez-vous, nous en prenons 10, hop, condamné à mort, vous êtes là à mourir de faim dans la cour pour que tout le monde entende. Et là, alors qu'il y a tchou, 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 il sort. Et puis il y en a un qui s'avance et dit, moi je vais prendre sa place. Maximilien Kolb. Un amoureux de Marie. Une présence d'Esprit Saint. Et alors en effet, il dit, ah bon tu veux, ah tiens, eh ben vas-y. Et en effet, et c'est celui qui a pris sa place, qui rend témoignage après, qui va survivre et qui va dire « Souvenez-vous de cela, qu'il y a des hommes qui donnent leur vie pour les autres, qu'il y a un amour plus puissant que la mort. » Et alors, Maximilien Kolb, dans ce lieu-là, petit à petit, va faire qu'avec ce groupe-là de prisonniers condamnés à mort de façon inhumaine, et ils vont se mettre pas à pas, et il y a toutes sortes de gens, et ils vont chanter, et ils vont se tenir les uns les autres, et ils vont avoir une fin édifiante. Des martyrs, notre foi, ce que nous sommes, si la prédication peut être faite, c'est parce que nos pères ont fait cette expérience d'un amour plus fort que la mort. Parce que nous sommes appelés à partager une vie, non seulement qui ne finira pas, mais une aventure, Dieu avec Dieu. Donc Maximilien Kolb disait de Marie, Marie, quasi-incarnation du Saint-Esprit. Bon. Alors voilà, et puis... connaître l'Esprit Saint, l'aventure de la vie spirituelle, d'être guidé ici, là, pas à pas, courir, marcher. Et donc, on peut prendre un passage, là, c'est rare, mais on peut prendre un passage de l'Ancien Testament pour percevoir aussi qu'est-ce que fait faire l'Esprit Saint dans le Pentateuque, hein, les premiers cinq premiers livres de la Bible, c'est l'aventure de Moïse. Et donc, ce doit être dans l'Exode, je pense, au chapitre 3. Exode, chapitre 3. Donc, vous ne l'avez pas dans celui-là, c'est un Nouveau Testament. Donc là, il n'y a peut-être pas beaucoup. Regardez voir si vous arrivez à trouver. Mais là, il y a peu de nouveautés dans l'Ancien Testament, je vais vous le lire. Il s'avère que Moïse, alors c'est l'aventure de Moïse. Là aussi, formidable, Moïse. Moïse a-t-il existé? Oh, des Mochés, il y en a d'exister. Certainement qu'à ce Moché, un Moché figure, comme ça, conducteur, il y a, c'est gardé la mémoire en Israël de Moché. Toute cette histoire ne s'est pas passée comme ça, bien sûr. Hein, aujourd'hui, c'est là la chance qu'est la science pour nous revenir au fait, hein, et de positionner à sa place l'enseignement spirituel qui est de l'ordre de la langue maternelle intérieure et qui n'a pas pour but de parler du monde réel. Le monde réel, c'est aux hommes à en détecter les choses, à le mesurer et à dire. Hein. Alors, dès que l'Église ou toutes les religions veulent se mêler, mélanger les plans, le plan de la vie spirituelle et le plan du réel de scientifique, aussi bien le mépris de la science, c'est un mépris de ce qui est, que l'âme, le mépris d'un monde intérieur, qui est le monde de Dieu, n'aboutit à rien. Alors, au chapitre 3, Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Alors les anges, qui sont-ils? L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne consumait pas. Et Moïse dit, je vais faire un tour. Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir. Voilà l'aventure. Hein? Bien, toute cette affaire, c'est une aventure qu'expriment les mystiques d'Israël. Et ils perçoivent que dans ce lien de l'alliance entre Dieu et les hommes, Dieu ne peut pas nous dire plus de choses que nous ne sommes prêts à le recevoir. Et la manière d'être prêt à le recevoir, c'est de faire les actes que nous avons à faire quand il nous dit quelque chose. Et donc là, il y a une espèce, qu'est-ce qui se passe? Moïse voit, ça veut dire quoi? Qu'il a une intuition de percevoir en regardant là. Oh, comme c'est beau. Oh, on a l'impression qu'il est plein de... il rayonne. Il y a une espèce de lumière, pas comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il aurait pu... ouais, ben dis donc, encore un éclat de soleil. J'ai dû rester trop longtemps au soleil. Allez, hop, arrêtons. C'est fini. J'en ai marre de ces trucs qui m'arrivent. Bon, non. Moïse dit, allons faire un demi-tour. Allons voir. Voilà. Il fait ça. Allons voir. Et aussitôt, Yahvé vit qu'il faisait demi-tour. Il entend l'intuition. Et il fait sa métanoïa. Oui, c'est ça. Il fait demi-tour. Ça veut dire, il se convertit. Il dit, j'allais là-bas, mais allez, je vais là-bas. Et il va voir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est beau. Il s'émerveille. Il est là. Qu'est-ce qui se passe? Et alors là, il y avait fille qui fait demi-tour. Et Dieu l'appela du milieu du buisson, du milieu de la création. Moïse a une intuition. Dieu serait-il dans ces arbres-là qui sont d'une beauté? Est-ce qu'en fait, en réalité, sous cette espèce d'opacité habituelle, y aurait-il pas une présence? C'est une vision mystique. C'est véritablement l'expérience de Teilhard de Chardin quand il nous dit « Le monde est plein et il est plein de Dieu. » Où donc est Dieu? Et alors, et c'est là, Moïse, Moïse, et il lui répondit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici trop près, retire tes sandales. C'est pas dire, oh là là, t'es un pécheur, nettoie-toi les pieds, viens, non. Pour rentrer dans cette expérience-là, il va falloir que tu t'accroches à la terre. Il va falloir que tu te colles à la terre. Il faut que tu atterrisses, Moïse. Si tu veux entrer dans la vie spirituelle, il faut atterrir. Ah, ça c'est bizarre alors. Et voilà. Entrer dans la vie spirituelle, il faut atterrir. Il faut s'incarner. La vie spirituelle, c'est de commencer à respecter les horaires. C'est de prendre soin des choses quotidiennes. C'est ça la vie spirituelle. Zéro ?
Voilà.
Ah ben d'accord. Bien. Zéro minute, nous nous arrêtons. Parce que vous avez une rencontre à faire cet après-midi qui vous attend. Est-ce que les murs de cette grotte vont flamboyer ? Au début, ce sera une toute petite intuition. Est-ce que vous percevrez à l'intérieur de vous une vibration ? Et là, vous dire, ah oui, je vais me rendre plus attentif. Parce qu'il y fait froid. Parce qu'il y a d'autres gens qui vont vous gêner. Il va y avoir ceci, cela. Est-ce que vous allez entrer dans la bénédiction des choses ? Et alors là, ça va s'ouvrir. Un livre va s'ouvrir. Je me suis arrêté. Les textes. Pardon. Non, d'accord. Oui, c'est bien, je te remercie. J'attends à la fin de la distribution quand même. Est-ce que tout le monde a son texte ? Attends que... Quatrième jour, jour 4. François-Xavier. L'esprit est le pouvoir et l'agir de Dieu. Mais cette puissance est différente de celle dont usent les hommes. À son sommet de vérité, dans l'œuvre accomplie en Jésus, la toute-puissance et toute grâce, amour infini, confondu avec la faiblesse absolue de la mort du Christ. Saint Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens, « Nous prêchons, nous annonçons, nous rendons présent le Christ crucifié, puissance de Dieu. » Ce matin, lorsque j'étais derrière, là, en train de penser à nous, à ce que l'Esprit Saint désirait, voulait de nous, je lui parlais, et j'ai eu le désir de faire le signe de la croix. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on fait le signe de la croix ? Comment ça se fait ? Et je me suis dit, oh, sur moi, sur mon corps, c'est comme de temps en temps, j'aime bien, je sais qu'il y a quelques parfums que Joël préfère. Et de temps en temps, j'aime bien me mettre de ce parfum-là, parce qu'elle m'accompagne un peu plus. Et quand je fais le signe de la croix, c'est un parfum qui m'accompagne de l'identité de mon Dieu. Il n'est pas, surtout pas, le Tout-Puissant qu'on croit. Voilà. Confondu avec la faiblesse absolue de la mort du Christ. La puissance, réalité souvent cruelle quand les hommes la détiennent, se trouve de retourner en une force innocente, désarmée, qui ne tache le sang d'autres victimes, d'aucune victime, sinon le sang de celui-même qui triomphe. Ça, c'est l'extraordinaire leçon que Gandhiji nous a apprise. Je ne peux être vainqueur de mon ennemi qu'en livrant ma vie pour lui et en le sauvant. L'agneau reçoit la puissance en son sacrifice. La puissance démontre ainsi son caractère divin tout autre. La puissance se déploie dans la faiblesse. Que nous dit notre frère et père Lucien? La science de nous-mêmes suppose qu'au lieu de vivre simplement en suivant les impulsions de la nature, on se demande pourquoi vivre. Faites donc que cette question « Pourquoi vivre ?» et moi j'aime souvent me dire « Pour qui vivre ?» se pose au plus intime de votre être, vous ne serez vraiment homme qu'à cette condition. Faites qu'elle vous accompagne d'une manière au moins sous-jacente à travers vos besoins quotidiens, à travers vos joies, à travers vos épreuves, et par elle, tout vous aidera à entrer et à marcher dans le chemin de la lumière. Tout. Il n'y a pas une vie spirituelle et une vie matériel. Il n'y a pas la vie du travail et la... Non, il n'y a qu'une seule vie. Ça a été pour moi quelque chose de fondamental et que j'ai appris à l'époque, en effet, hein, de Lanza del Vasto, de son nom indien, Shantidas, hein, c'est que ça ne vaut pas la peine de vivre seulement à certains moments. De ne vivre qu'un quart de sa vie, c'est-à-dire au congé. Vivre 100%. C'est ça, ça c'était pour moi fondamental. Vivre 100%. Les mots n'ont de sens qu'autant qu'en les entendant, nous nous en référons à des intuitions. Il faut qu'elles aient un sens en nous, hein, à des petites clarté, l'intuition, une lumière globale d'un seul coup. Et dans chaque ordre divers, elles se produisent à des degrés divers, depuis le simple pressentiment qui se manifeste par une inquiétude, un malaise, jusqu'à la conscience claire et distincte. Si les intuitions sont partout, le labeur est aussi partout. Si Moïse ne fait pas un détour, il ne se passera rien de plus. Et si la connaissance est essentiellement intuition, l'intuition pour nous est essentiellement laborieuse. Et j'en sais quelque chose. Mais il est tellement impossible de s'en passer que quand on veut faire connaître quelque chose à quelqu'un et qu'on n'a aucun moyen de ramener ce quelque chose à des intuitions de son expérience, la seule ressource qu'on ait, c'est de lui dire, il faut y aller voir. Il faut que tu en fasses l'expérience. La révélation, au lieu d'avoir pour rôle, comme on le suppose, de suppléer à l'intuition, ce qui est impossible, aurait pour rôle, au contraire, d'aider l'intuition à se produire ou au moins à s'ébaucher. Un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire, pourquoi lire cette Bible? À faire naître des intuitions. L'approcher pour qu'il se passe quelque chose. C'est pas en apprenant, c'est pas un enseignement, c'est pas une loi à apprendre. C'est un langage. Il est tellement impossible de se passer de l'intuition que quand on veut faire connaître quelque chose, je me suis guidé, hop, c'est tout différent. Cela suppose non plus une connaissance par le dehors. C'est tout différent. Car cela suppose non plus une connaissance par le dehors, mais une connaissance par le dedans. Une connaissance où notre capacité de connaître entre en jeu activement et accède à la vérité inaccessible en vivant de cette vérité et par cette vérité même. C'est compliqué. Et donc, ça demande un détour. Hein, c'est très souvent ce qu'on aimerait bien. Hein, c'est du tout cuit, tout mâchouillé. Alors, et surtout, c'est super, c'est quand on a une maman-papa qui s'appelle Jackie, qui, comme les mamans-papas, mâchouille d'abord la parole, gna, 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 la régurgite, et puis vous donne la béquille. Hein? C'est aussi ça, c'est que ça, qu'est-ce que Jésus fait, c'est ça. Mais pourquoi faire ça? Pour aller chercher la parole et se nourrir soi-même. Si le seul moment où vous avez un accès à la parole, c'est ce temps qui est de vacances et l'évangile, eh bien, ça va être pauvre. Hein? Il va falloir prendre la parole, la lire, travailler, étudier, être des homo sapiens sapiens, de vrais dignes fils de vos ancêtres, travailler, faire à la fois un travail intellectuel. Et je suis dans les incontournables. Non. Alors, on avance. Pierre Teilhard de Chardin. Les deux fois en présence, foi en Dieu et foi en l'homme, loin de s'opposer entre elles, représentent au contraire les deux composantes essentielles d'une mystique humano-chrétienne complète. Pleinement homme, pleinement fils de Dieu. Hein, d'autres termes, de la terre et du ciel. Pas de foi chrétienne réellement vive si celle-ci n'atteint et ne soulève pas dans son mouvement ascensionnel la totalité du dynamisme spirituel humain. Et pas de foi en l'homme, psychologiquement possible non plus, si l'avenir évolutif du monde ne rejoint pas dans le transcendant quelques foyers de personnalisation irréversible. En somme, impossible d'aller en haut sans se mouvoir en avant, ni de progresser en avant sans dériver vers en haut. Vous voyez, c'est quand même tellement beau, cette espèce d'intuition. Hein, Teilhard essaie tout le temps de dire, mais on ne peut pas quitter la terre pour connaître Dieu. Et la terre reste pauvre si on ne sent pas qu'elle va, que tout nous entraîne vers une réalisation extraordinaire. Hein? Si ce n'est que ça, eh oui, c'est déjà ça, vous me direz, et c'est vrai, et c'est légitime, mais c'est tellement autre et plus. Florin Calran. Marie, audacieuse, provocatrice de Jésus à faire apparaître son œuvre. Quelqu'un vient au secours de Jésus. Quelqu'un vient au secours de Dieu. L'humanité pourrait-elle venir au secours de Dieu? Je ne puis aller ailleurs parce que l'ailleurs n'existe pas. L'ailleurs, ça pourrait être en dehors de Dieu. Je ne peux pas aller ailleurs parce que l'ailleurs n'existe pas. Il ne faut pas moins que tout Dieu en permanence pour que j'existe. Il ne faut pas moins que tout Christ en permanence pour que je vive de son esprit. Mon lieu, c'est la Trinité. J'ai beau faire l'analyse de mes profondeurs psychologiques. Il y a au fond de moi comme un voile qui m'empêche de surprendre le jaillissement de la source éternelle qui lance le ruisseau que je suis. Or, voici que par une certaine mise en panne psychologique, physiologique de mon cerveau, alors là, Florin est en train de nous parler, ce qui est en train de se passer, il parle dans des périodes toutes proches de sa mort, hein, il a un cancer, et puis il est en train d'expérimenter, et il écrit, il essaye de tout le temps de dire ce qu'il est en train de vivre. Hein. Et alors il dit, mon cerveau va être en train de devenir en panne physiologique. Or, hein, oui, voici que par une certaine mise en panne physiologique de mon cerveau, le rideau se lève. Et là, comme les visions, les mystiques, il est en train de décrire ce qui se passe quand il va mourir. Alors, la première chose que je verrai et expérimenterai, c'est comment cela se fait que j'existe de par toi, ô mon Dieu. Je pourrai rester des siècles et des siècles captivé par cette extase. Mais ce ne sera que le commencement. En toute créature, je verrai comment cela se fait et comment Dieu s'y prend pour se communiquer. Dieu me prendra et m'emmènera si profond en son secret que je le connaîtrai du dedans, que je le verrai à l'œuvre et que me sera donné son coup d'œil à lui sur tout, en tout ce qui est existé par lui. Ce sera comme si, étant enfin arrivé à l'endroit des choses, je me souviendrai de leur envers vécu durant la première phase de ma vie. Alors, je me croyais à l'endroit. Mais l'endroit véritable du monde et des êtres, c'est la projection que Dieu y fait de lui-même. Je comprendrai que je n'ai pas été trompé à propos du mystère. C'était une mise en appétit. Il fallait bien que l'aspiration vers l'infini se levât en moi comme un ouragan qui vient progressivement. Merci, Florin.